gets us some light aisle by aisle.
Judith Carpenter.
Judith Carpenter.
I am 87 today.
J'ai 87 ans aujourd'hui.
And in 1945, I was living in Toledo, Ohio.
En 1945, je vivais
My
à Toledo, Ohio.
Mother was in the house, I was in the yard.
Ma mère était dans la maison, moi dans le jardin. Je ne sais plus ce que je faisais. Elle est arrivée en courant. Elle pleurait.
I had never seen my mother cry.
Je n'avais jamais vu ma mère pleurer.
And I really had no idea what had happened, but I was sure something important.
Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais je savais que c'était important.
She came out and said, "Roosevelt is dead."
Elle est sortie, elle a dit, Roosevelt est mort.
She said the president. She probably said
Peut-être qu'elle a dit le président. Elle a dû dire le président est mort.
She would not have said Roosevelt.
Elle n'aurait pas dit Roosevelt.
C'était un grand choc. Moi, quand j'étais gosse, j'avais 16 ans à l'époque, quelque chose comme ça. J'étais à l'école, ce qu'on appellerait high school, je suppose.
Ivan Nabokov.
C'était école privée, c'était prep school. Et j'étais sur le champ de ce qu'on appelle football en Amérique, le soccer. On était en train de jouer, on nous a annoncé la mort du président, ça fait un gros choc. Président depuis 16 ans. Et nous, les gosses qui en ont connu, pas d'autre président que Roosevelt. Donc c'est comme si une espèce de héros mythologique a disparu.
The Great Crossing, Franklin Delano Roosevelt, The Ally.
Grande traversée, Franklin Roosevelt, l'allié.
When Franklin Roosevelt died, there was a whole generation of people who had never known any other president. And he'd seen them whether you
À la mort de Franklin Roosevelt, il y avait toute une génération de gens qui n'avaient jamais connu d'autre président.
And World War II.
Qu'on soit d'accord avec ses idées ou pas, il nous avait sorti de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale, qui touchait à sa fin et qu'on allait manifestement gagner. Les gens étaient abasourdis, malgré son grand âge et sa fragilité. Ils sont restés accablés de chagrin pendant un certain temps.
Geoffrey Ward.
Plusieurs personnes ont été interrogées. Quelqu'un a demandé à un ouvrier pourquoi il pleurait. Il a dit, parce que c'était le premier président qui savait que mon patron était un fils de pute. C'est drôle. Mais ça vous montre aussi à quel point les gens s'identifiaient à lui, même s'il ne venait pas du tout du même milieu
qu'eux.
Il avait réussi à convaincre les ouvriers qu'il protégeait leurs intérêts et qu'il se souciait d'eux. À Washington, quelqu'un d'autre a demandé à une dame noire qui sanglotait de façon incontrôlable « Vous connaissiez le président ?» Elle a répondu non, mais lui me connaissait.
C'était une journée. Il fait froid, il avait plu et c'était un dimanche. Je crois que c'était un dimanche, je ne sais pas correctement.
Sur Rivington Street, dans le Lower East Side de Manhattan, quelqu'un demande à une femme si elle a entendu la radio. « Pas besoin de la radio », pleure-t-elle. C'est écrit sur tous les visages. C'est une autre nouvelle que guettent les Américains en ce mois d'avril 1945. C'est l'annonce de la victoire qu'ils attendent. La 9e armée américaine est à moins de 100 km de Berlin. La jonction avec les troupes russes est imminente.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
My fellow Americans, last night, when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops of the United States and our allies were crossing the channel in another and greater operation. It has come to pass with success thus far. And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer.
Cette prière que Roosevelt fit sur les ondes la veille du débarquement semble quasiment exaucée. La chute du Reich nourrit toutes les rumeurs. La presse britannique de la veille rapporte qu'Hitler est mourant, qu'il a laissé le pouvoir à Himmler. À la Chambre des communes, il a même été demandé au ministre des Affaires étrangères la confirmation qu'Hitler a été assassiné. Seuls les perdants doivent mourir.
Les peuples libres sont en deuil. En deuil aussi la prodigieuse armée qui combat à travers le monde pour assurer la liberté. Dans Paris, les drapeaux en berne soulignent la part que prend la France au malheur de la grande République amie. Dans l'église américaine de Paris, un service funèbre est célébré auquel assiste M. Jeanneney, représentant le gouvernement français, et M. Jefferson Caffrey, ambassadeur des États-Unis. À Notre-Dame, à la mémoire du grand chef d'État qui fut avant tout un grand démocrate et pour nous un grand ami, une autre cérémonie se déroule en présence du général de Gaulle. Franklin Roosevelt, quatre fois président des États-Unis, disparaît à la veille d'une victoire qu'il avait voulu et préparée. Voici trois mois, surmontant sa fatigue, il faisait le long voyage de Yalta. Et de retour à Washington, il proclamait devant le Congrès américain les résultats d'une conférence au cours de laquelle ont été jetées pour l'avenir les bases d'un monde meilleur.
Ce monde meilleur, dans lequel nos enfants et nos petits-enfants, les vôtres et les miens, ceux du monde entier, doivent vivre et peuvent vivre.
Il était handicapé. Pour moi, c'était une révélation quand je l'ai su. Personne ne faisait grand état de son handicap. Parce qu'il ne pouvait pas marcher, il avait la polio. Donc, il était quantiquement handicapé. Il avait l'appareil métallique sur ses jambes. Mais Roosevelt, on ne voyait jamais qu'assis. Et dans toutes les conférences, avec Churchill, Stalin, tout ça, Yalta, Casablanca, il est toujours assis. Comme Stalin. Stalin pour autre raison. Stalin était parce qu'il était tout petit, Stalin. Et Roosevelt parce qu'il était handicapé, donc il ne pouvait pas rester debout.
Sa phrase la plus célèbre est « La seule chose dont nous devons avoir peur est la peur elle-même. »
David Woolner.
L'indéfinissable, le déraisonnable, l'injustifiable terreur qui paralyse les efforts nécessaires pour convertir la déroute en marche en avant. Je la trouve très intéressante à la réflexion, car c'était un homme paralysé qui tentait de relever une nation à genoux.
It's astonishing to me at how.
Je suis toujours sidéré qu'on ait mis tant d'années à comprendre à quel point il était abîmé par la polio.
Terribly damaged he was by polio. I mean, he.
Geoffrey Ward.
And part of it was.
C'est dû en partie à son optimisme.
He never stopped.
Il n'a jamais cessé de penser qu'il finirait par se rétablir. En 1944, il avait une amie très proche, une cousine éloignée du nom de Daisy Suckley.
She was a wonderful lady.
C'était une femme merveilleuse.
But she was a crank, and she had all kinds.
Mais elle était excentrique. Elle avait toutes sortes d'idées farfelues sur les médecins, les devins, etc.
All that stuff. And he sort of enjoyed going along.
Il s'amusait parfois à écouter ses conseils.
In the last weeks of his life,
Et dans les dernières semaines de sa vie, elle lui a présenté un ancien entraîneur de boxe, un certain Lenny, dont elle disait que les massages avaient un pouvoir curatif. Franklin Roosevelt était mourant. Mais à la grande horreur des hommes des services secrets qui n'avaient jamais entendu parler de ce type, Lenny, il s'est présenté à la Maison Blanche pour lui prodiguer des massages. Daisy écrit à un moment, il a bougé son gros orteil. Elle est très enthousiaste, mais ça ne voulait rien dire. Mais il n'a jamais cessé de croire que d'une façon ou d'une autre, il finirait par se remettre debout. Il avait la certitude qu'il lui suffisait d'être aux commandes pour que tout s'arrange et que les médecins se trompaient. Les médecins lui disaient « Vous ne pourrez pas aller plus loin ». Et il leur répondait « Non, je vais essayer autre chose ». Les archives de la bibliothèque présidentielle de Franklin Roosevelt sont remplies de prospectus vantant les mérites de traitements farfelus. Un dispositif électrique à fixer sur le corps, une sorte de cage de marche, et ainsi de suite. Il les étudiait tous avec beaucoup de sérieux. C'était un peu fou, mais ça faisait partie de cet optimisme forcené et de cette conviction que les choses finiraient par s'arranger s'il s'en chargeait lui-même. Ce n'est pas très utile dans la vie privée, mais c'est très utile quand on dirige un pays.
Dans les archives de la bibliothèque Franklin Roosevelt à Hyde Park, on trouve aussi le journal d'Henry Morgenthau, son ministre des Finances et son ami. Il était avec lui la veille de sa mort.
On a aussi le récit de sa dernière rencontre avec le président. Le secrétaire Morgenthau a pris l'avion jusqu'à Warm Springs pour aller le voir la veille de sa mort, par hasard.
William Harris.
La description de ce dîner est très forte, très émouvante, parce qu'elle montre à quel point l'état de santé du président était détérioré à ce stade. J'ai eu un choc terrible en le voyant, écrit Morgenthau. Il avait effroyablement vieilli et semblait totalement hagard. Ses mains tremblaient tant qu'il menaçait de renverser les verres. J'ai dû tenir les verres pendant qu'il versait le cocktail. Voyant un pot de caviar russe, je lui ai demandé s'il en voulait. Il y avait des œufs et des oignons en accompagnement. Je lui ai dit, « Si je me souviens bien, Monsieur le Président, vous le préférez nature ?» Il a acquiescé. Je l'ai servi. J'ai remarqué qu'après deux cocktails, il semblait se sentir un peu mieux. Sa mémoire le trahissait. Il mélangeait sans cesse les noms. Il ne s'était pas pesé, si bien qu'il ne savait pas s'il avait pris du poids ou pas.
Je ne l'avais jamais vu passer de son fauteuil roulant à sa chaise avec tant de difficultés. C'était un supplice à regarder. J'avais apporté une boîte de bonbons et j'ai dit « c'est pour les dames de la maison ». Pourquoi seulement pour les dames, j'en veux un, a-t-il dit. Et il en a pris un. Au souper, le président était assis à un bout de la table et moi à l'autre. Miss Delano m'a dit qu'il lui avait demandé de l'accompagner à San Francisco.
L'une des grandes tragédies de la guerre est bien sûr que Roosevelt est mort le 12 avril 1945, quelques semaines seulement avant l'ouverture de la conférence de San Francisco. C'est à cette occasion que devait être rédigée la Charte des Nations Unies. Il était très enthousiaste à l'idée de cette conférence. Il voulait s'y rendre. Il avait parlé à Eleanor Roosevelt de prendre le train. Ils avaient tout préparé. Mais il ne voulait pas rester là-bas. Il pensait que ce ne serait pas approprié pour lui de rester. La nuit précédant sa mort, il a reçu la visite d'Henry Morgenthau, qui se trouvait dans le sud. Roosevelt était à Warm Springs, en Géorgie, où il essayait de se refaire une santé. Le soir du 11 avril, Henry Morgenthau est passé le voir. Il a dîné avec le président et Roosevelt a parlé de la conférence de San Francisco. Il a dit qu'il allait s'y rendre. Et je trouve ça vraiment fascinant. Il a dit qu'il espérait pouvoir s'adresser à l'Assemblée depuis sa chaise roulante. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il avait reconnu son handicap dans son discours de Yalta. On l'avait vu quelques fois en public dans sa chaise roulante. Mais là, il voulait se rendre sur place et s'adresser spécifiquement à cette nouvelle organisation mondiale depuis sa chaise roulante. C'était une idée très intéressante.
Le président m'a dit qu'il s'était vu proposer un magnifique appartement là-bas, au dernier étage d'un hôtel, écrit Morgan Sow dans son journal, mais qu'il ne le prenait pas. J'y vais dans mon train, et à 3h de l'après-midi, j'apparaîtrai sur scène, dans ma chaise roulante, et je ferai mon discours. Puis il a fait une grimace, a applaudi en disant « et ils m'applaudiront, et je retournerai dans mon train, nous descendrons à Los Angeles déposer mes belles-filles, et je serai de retour à Hyde Park le 1er mai ».
He was actually working on the address that he would give to the UN.
Il travaillait sur le discours qu'il devait prononcer à l'ONU et sur un discours appelé Jefferson Day, qu'il devait prononcer quelques jours plus tard, à la mi-avril. Il réfléchissait à la situation du monde et à la direction qu'il prenait. Il citait Thomas Jefferson, qu'il admirait beaucoup. Il mentionnait que Jefferson était un scientifique et il parlait de la communauté scientifique dont le monde avait besoin.
And he made reference to the fact that Jefferson was a scientist, and he talked about this sort of scientific community.
Il évoquait également le fait que, pour que notre civilisation survive, nous devions cultiver ce qu'il appelait la science des relations humaines, c'est-à-dire la capacité de tous les individus, quels qu'ils soient, à vivre ensemble et à travailler ensemble dans la paix.
Il meurt le lendemain d'une hémorragie cérébrale.
Il faisait faire son portrait à Warm Springs, en Géorgie.
Francesca Maxali Urbine.
Et alors qu'il était en train de poser, il a dit « J'ai terriblement mal à l'arrière du crâne ». Puis il s'est affaissé en avant et il est tombé. Et peu de temps après, il est décédé à Warm Springs.
Sa femme Eleanor Roosevelt n'est pas là. Elle est rarement avec lui. Et pourtant, jamais Première Dame n'a autant marqué son temps. Parler de lui, c'est parler d'elle. Quand son mari perd conscience en Géorgie, elle est à Washington. Elle s'entretient avec les femmes journalistes, puisque les conférences de presse du président sont réservées aux hommes. Elle leur parle du prochain voyage à San Francisco et de la naissance des Nations Unies. Elle est prévenue par téléphone. Il lui est demandé de ne rien changer à son emploi du temps pour ne pas donner l'alerte.
Eleanor Roosevelt sent a telegram.
Eleanor Roosevelt a envoyé un télégramme à tous ses fils pour leur dire que leur père était mort au service de son pays. Quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, tous ses fils se sont engagés dans l'armée où ils se sont distingués. Je suis sûr qu'ils auraient pu y échapper, mais ils n'ont pas essayé.
From my mother, when my grandfather passed away at Warm Springs.
Quand mon grand-père est mort à Warm Springs,
my grandmother wasn't there.
Ma grand-mère n'était pas là.
She had to get there in the
Anne Roosevelt.
The wives of
Elle est partie aussitôt.
Had to head for
Et les filles de leurs fils ont dû se rendre à New York.
And travel wasn't as quick in those days.
À l'époque, le voyage était beaucoup plus long.
So my mother gave me to understand that they were shocked.
Ma mère m'a laissé entendre qu'ils étaient bouleversés et se sentaient accablés et tristes, bien sûr.
But, I think felt more of well.
Mais ils se demandaient surtout.
The war isn't over, and
la guerre n'est pas finie.
We're still in it.
On se bat encore.
And we need to. What do we do now?
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
How do we support what he had been?
Comment poursuivre ce qu'il voulait accomplir?
Do to extend his legacy.
Comment perpétuer son héritage et honorer son nom?
Je plains davantage les gens de ce pays et du monde que nous autres, a déclaré la Première Dame. Cette phrase est partout dans les journaux du lendemain. Eleanor Roosevelt ne se souvient pas l'avoir prononcée. Mais c'est pour tout le monde la stricte vérité. Et personne ne prend ça pour un manque d'émotion de sa part. Madame Roosevelt m'a dit, quand elle m'a fait venir, que le président savait son état, écrit Henry Morgan Sow au soir du 12 avril. Elle a dit qu'il était mort en soldat. Le lendemain, le train présidentiel repart dans l'autre sens. La plateforme arrière est vide. Le cercueil mange toute la place dans le wagon qui fut son bureau.
À Franklin Roosevelt, les États-Unis ont fait les plus belles funérailles qu'un peuple puisse faire à son chef. De Warm Spring où il mourut jusqu'à Washington, sur 1000 kilomètres, des foules massées le long des voies ont donné la mesure de leur attachement à l'homme qui incarna la volonté de son pays.
À Atlanta, la foule n'a pas été autorisée à approcher des rails, mais elle est partout alentour, debout sur les toits des garages, des entrepôts, des immeubles. Puis c'est des champs à perte de vue, la foule massée au passage d'un niveau, qui prolonge dans le silence un dialogue singulier avec ce président.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
On Tuesday next, November 16th,
mardi prochain,
the Post Office Department,
le 16 novembre,
through its far-flung and highly efficient organization,
la Poste, grâce à son réseau étendu et efficace, vous fera parvenir partout aux États-Unis un document en forme d'enquête sur le chômage. Il contient 14 questions. Ce document, que le postier déposera à votre porte mardi, est en deux volets, plus grand qu'un courrier ordinaire. Il s'adresse à ceux qui sont au chômage ou partiellement au chômage, qui sont en état de travailler et cherchent du travail.
To you from me. A message carrying the assurance.
Il contient un message de ma part pour vous assurer que si vous nous donnez des informations précises sur votre situation, nous pourrons planifier des réponses efficaces pour tous ceux qui ont besoin de travailler.
Well, as happens in most democratic countries,
Michael Cassini.
When big changes happen, it's
généralement, dans la plupart des pays démocratiques, quand de grands changements se produisent, c'est grâce à la pression de la base et à l'accueil favorable du sommet. Je n'ai pas l'habitude de citer Lénine, mais Lénine a dit un jour que les révolutions n'adviennent que lorsque ceux d'en bas ne veulent plus et que ceux d'en haut ne peuvent plus continuer à vivre de l'ancienne manière. Il n'y a pas eu de révolution dans les années 30 aux États-Unis, mais cela a été la période la plus transformatrice de l'histoire politique américaine depuis la guerre de sécession et la reconstruction 70 ans auparavant. Et cela ne s'est produit que parce que la Grande Dépression était effectivement une grande dépression. La crise la plus longue et la plus profonde de l'histoire américaine.
Franklin Roosevelt est l'une des principales figures du XXe siècle, du moins aux États-Unis.
Rebecca Herbelding.
Mais je pense que c'est aussi le cas dans le reste du monde. Je ne crois pas qu'il risque d'être oublié. Il est responsable de la sortie de la Grande Dépression et il a largement contribué à la victoire des Alliés. S'il avait été battu en 1940 et remplacé par un président isolationniste, peut-être que le Japon n'aurait pas bombardé Pearl Harbor. Peut-être que les puissances de l'Axe auraient décidé de tenir les États-Unis à l'écart. Et puis, il n'y aurait pas eu le pré-bail. Il n'y aurait pas eu de base militaire en Grande-Bretagne. Le monde aurait été très différent si les États-Unis ne s'étaient pas engagés dans la guerre ou si l'Amérique avait soutenu l'Allemagne. C'était peu probable. Mais il existe des romans dystopiques qui évoquent cette possibilité, comme le livre de Philip Roth. Ce n'est pas aussi farfelu qu'on pourrait le croire. Certains membres du Congrès voulaient soutenir l'Allemagne au lieu de la Grande-Bretagne et de la France. Mais Roosevelt n'a jamais hésité. Il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute quant au camp du côté duquel les États-Unis devaient se ranger, du moins de la part de la Maison-Blanche.
Les Américains venaient de le réélire pour une quatrième fois consécutive. Rarement gens des villes et des campagnes, rarement noirs et blancs votent pour le même homme.
C'était un immense chagrin, oui, parce que c'est avec Roosevelt, je crois que la plupart des communautés noires sont devenues démocrates en Amérique.
Un peu avant Gainesville, les cueilleurs se redressent dans les champs de coton. Ils lâchent leurs outils et joignent les mains au passage du train.
President Roosevelt is such a fine man, and he's been giving advices and going all through the world trying to make peace. And so I made just these little few words just to show you how time is here. President Roosevelt went all over the United States trying to get Elaine Germany to hesitate about that war. About that war. President Roosevelt, he's a mighty fine man. He's been trying to get Elaine Germany to understand about that war. Oh, about that war. Yes, about that war. Yes, about that war. It's about that war. It's about that war. It's about that war. It's about that war.
It's surely true that the
Les principaux programmes de l'État-providence, qui sont pour la plupart encore en vigueur aujourd'hui, ont été adoptés dans les années 30. Le New Deal a notamment aussi créé de nombreux emplois publics pour la construction de barrages, d'autoroutes, de bâtiments divers. Beaucoup de bureaux de poste, par exemple, ont été édifiés pendant le New Deal. Quand des bâtiments sont construits dans ce pays aujourd'hui, les travaux ne sont généralement pas réalisés par les employés du gouvernement.
It had me worried all the time. The depression was bad. It had me worried all the time.
Cher président Roosevelt, bien que je sois personne et Little Nobody de Brooklyn, je prends la liberté de vous écrire. À chaque fois que vous dites « mes amis » à la radio, je me dis que j'en fais partie. Où qu'il en soit, je veux juste que vous sachiez que vous êtes le plus grand président que nous ayons jamais eu. Plus grand même que le président Lincoln. Je suis allé à l'église ce matin. En plus de prier pour nos soldats, notre pays, j'ai remercié Dieu de nous avoir laissé vous avoir comme président et comme ami. Sincèrement, Florence Barnett.
Il a toujours insisté pour conserver sa correspondance avec la population américaine,
William Harris.
Et heureusement qu'elle l'a été, parce que c'est un échantillon de l'Amérique des années 30 et 40.
Et
il y a des louanges, mais aussi des critiques. Certaines lettres sont très virulentes. Les gens le détestent, ils le traitent de fasciste, de communiste, de socialiste, de monstre. D'autres désapprouvent simplement sa politique, sans haine. Ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas entrer en guerre. Et ils ont le droit de le dire, c'est le principe d'une démocratie. Ces lettres sont incroyablement personnelles et souvent très touchantes. Il y en a beaucoup qui viennent de jeunes gens, et même d'adultes touchés par la polio, la paralysie infantile.
Il y a donc quelque chose de profondément émouvant dans ces lettres, parce qu'ils voient en lui un symbole d'espoir, non pas politique, mais personnel. C'est assez unique, surtout à cette époque de l'histoire américaine. Aucun président avant lui n'avait eu un lien aussi fort avec la population. Certains de ses correspondants sont des gens très pauvres, qui lui écrivent sur un bout de papier, avec des fautes de grammaire.
Not in a grammatical fashion. And, but they're saying to him that,
mais ils lui disent, enfin, il y a quelqu'un qui pense à nous.
Cher Monsieur Roosevelt, je vis à Butte, qui est la plus grande ville du Montana et la plus grande mine de cuivre du monde.
Mon mari est chauffeur de camion. Il ne gagne pas beaucoup d'argent, mais suffisamment pour que nous n'ayons pas besoin des programmes de l'Agence des grands travaux.
Quand vous lirez cette lettre, vous penserez que je suis sans gêne, mais je ne peux plus supporter de voir mes parents tellement inquiets.
Cher Monsieur Roosevelt, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens misérables dans notre communauté qui méritent de bénéficier de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. Dans notre communauté, comme dans d'autres, les conditions de logement sont déplorables, surtout pour les gens de couleur.
Je suis une fille très pauvre. Je n'arrive pas à trouver un travail. Je n'en ai jamais eu. Pourriez-vous m'envoyer un manteau pour l'hiver ? Je vous en serai très reconnaissante. Ma taille, c'est un 46.
Bluffton. Cher Président, j'espère que vous serez élu une troisième fois. Nous écrivons des lettres à l'école et on peut écrire à qui on veut. Alors, j'ai pensé que j'allais vous écrire. Mon frère dit qu'il veut être président aussi un jour. Mon frère dit qu'il le sera un jour. Je dois m'arrêter. Répondez, s'il vous plaît. Oui, Albert Davis.
Ces lettres ne sont pas rangées dans un dossier réservé aux gens ordinaires et aux inconnus. Elles ont été classées par ordre alphabétique, puis elles ont rejoint le reste du courrier, au même rang et dans les mêmes tiroirs que les courriers des amis, des puissants, des rois, des présidents et des princesses de ce monde. Elles sont souvent écrites au lendemain d'un passage à la radio, comme une réponse.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
My friends, last Thursday I described
mes amis, jeudi dernier, je vous décrivais dans le détail certains problèmes économiques qu'affronte le pays. Pour tous les messages que j'ai reçus ensuite et auxquels il m'est impossible de répondre individuellement, je veux dire ici merci.
Elle monte en puissance, la radio. Elle transporte la parole du président, comme celle de l'immensément populaire Père Coughlin, prêtre catholique qui a soutenu Roosevelt au nom du peuple, puis sombré dans un populisme antisémite et fascisant. Elle transporte les coups et les chocs des matchs de boxe, comme la menace imminente des extraterrestres, ce soir où Orson Welles joua si bien la guerre des mondes qu'il laissa quelques quartiers au bord de la panique.
We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied.
Orson Welles aimait d'ailleurs raconter qu'un jour, Roosevelt lui avait confié « Il y a deux grands acteurs aux États-Unis, et nous voilà réunis. » Orson Welles avait créé la peur. Roosevelt, lui, rassurait.
Ce soir, assis à mon bureau à la Maison Blanche, c'est notre premier rendez-vous radiophonique de mon second mandat. Et je me rappelle de ce soir de mars, il y a 4 ans, lorsque je vous ai fait mon premier rapport. Nous étions au beau milieu d'une crise bancaire.
Mais comment ce timbre, ce phrasé plein des accents du monde des privilèges, a-t-il pu à ce point pénétrer les foyers, les esprits, et surtout y durer ? Il plane encore sur les mémoires, tandis qu'avance le train funéraire. Un lien s'est créé, une confiance de bas en haut qui, au siècle d'après, paraît aussi mystérieuse qu'impossible.
Cher Monsieur le Président,
Hier soir, je vous ai écouté parler. J'étais assis, seul dans mon salon. Ma femme était partie se coucher, fatiguée d'avoir à fournir des repas pour nos 4 enfants. Eux aussi dormaient. Ils devaient se lever tôt, lundi matin, pour aller à l'école. Je pense que votre discours a soudé le pays. On ne comprend pas bien, nous, les tenants et les aboutissants, mais nous espérons que vous, oui. Et quoi qu'il en soit, on vous fait implicitement confiance. Merci de prendre le temps de me parler de ces choses. Nous avons besoin de vous entendre, plus pour la valeur spirituelle et encourageante de votre parole que par un besoin de tout comprendre. Rien que de vous entendre parler, ça nous aide. Vincent Doyen.
Bing Crosby, the singer,
Bing Crosby, le chanteur,
and Franklin Roosevelt, the statesman,
et Franklin Roosevelt, l'homme d'État, jouissaient tous les deux d'une immense popularité à la radio.
Geoffrey Ward.
First of all, radio was new, but
tout d'abord parce que la radio était quelque chose de nouveau.
Orators before
him, mais aussi parce que contrairement aux autres orateurs,
and singers before
Franklin Roosevelt
Crosby
ne hurlait pas. Et il en allait de même pour Bing Crosby.
Both very intimate.
Ils avaient tous les deux un ton très intimiste. Ils donnaient l'impression de vous parler au creux de l'oreille, d'être littéralement dans votre salon. Ce n'était encore jamais arrivé.
Nobody can pin him down.
Il était impossible à cerner.
Any two people would visit him, and they weren't sure when they came out what he thought, but they saw
him as a fantastic bureau, personality. Ses visiteurs ne savaient pas ce qu'il pensait, mais ils voyaient en lui une personnalité extraordinaire.
One of his,
et c'est vrai qu'il avait une personnalité incroyable.
Said he had a forested.
L'un de ses assistants les plus proches a dit de lui qu'il avait un intérieur tapissé de forêt.
Exactly.
Je crois que c'est juste.
Thinking,
personne ne savait exactement ce qu'il pensait. C'était frustrant, mais c'était aussi une grande force. Si vous restez un peu à distance des choses, comment formuler ça ? Je pense qu'il est très difficile de savoir qui sont vraiment les grands dirigeants politiques. Il se crée un personnage public et il est très difficile de discerner qui se cache vraiment derrière. C'est fascinant, mais on ne peut pas y arriver. Je lui ai consacré 8 ans de ma vie. Pourtant, je ne le comprends toujours pas. Je peux expliquer certaines choses, mais on ne pourra jamais tout expliquer. Il disparaît. Il est comme le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles, qui finit par n'être plus qu'un sourire derrière le bureau. Le pouvoir de cette personnalité était tel qu'alors même qu'il ne pouvait pas se lever, j'espère qu'on va parler de ça, il ne pouvait littéralement pas quitter son fauteuil sans aide. Pourtant, dans les récits qu'ont fait certains visiteurs de leur rencontre, on peut lire: il se leva de son fauteuil pour m'accueillir. Il n'a jamais fait ça, pas une seule fois. Mais il avait une telle personnalité, avec sa poignée de main si vigoureuse et son immense sourire, que les gens le croyaient plus capable qu'il ne l'était. C'était un être humain extraordinaire.
Je suis la fille cadette de James Roosevelt, qui était lui-même le fils aîné de Franklin et Eleanor Roosevelt.
Mais qu'est-ce que votre père vous a raconté de son père, votre grand-père, Anne Roosevelt?
Pas grand-chose en réalité. C'est plutôt ma mère qui me parlait de mon grand-père. Mon père était trop occupé à être le fils de son père et à essayer d'être à la hauteur de ce rôle. Ce que je sais de mon grand-père, je le tiens surtout de ma mère. Quand je regarde les photographies de lui, je
je vois quelqu'un qui passe sincèrement un bon
moment. I think he really did enjoy it.
Je crois que ça lui plaisait.
I think he really did enjoy it.
Je crois vraiment que ça lui plaisait. Il adorait passer du temps avec les gens.
Smiled through his pain.
Et je crois qu'il souriait aussi à travers la souffrance et à travers l'épuisement. Parce qu'il savait que sinon, il n'y aurait peut-être pas de retour possible.
It was also a technique for himself to teach himself to take the next.
C'était une façon pour lui de s'obliger à avancer.
His physical body and what he could do and not do.
Les limites physiques de son corps, ce qu'il était ou non capable de faire, tout ça était indissociablement lié à sa carrière politique et étatique.
There are still only 5 or 6 pictures of him in a wheelchair. And
on n'a pas plus de 5 ou 6 photos de lui en chaise roulante. Et la plupart d'entre elles, je crois qu'il n'y en a qu'une qui a été publiée de son vivant et elle est prise de très loin. On le voit se faire pousser vers l'hôpital pour des examens et quelqu'un a réussi à voler une photo.
What's also astonishing, given the current world, is how cooperative the press was.
Aujourd'hui, on a du mal à concevoir que les journalistes de l'époque aient fait preuve de tant de coopération. Aucune loi ne leur interdisait de le prendre en photo. C'était un accord tacite. Quand des amateurs le photographiaient et qu'ils étaient repérés, les membres des services secrets s'empressaient d'aller récupérer la pellicule. Surtout pendant la guerre, parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent à quel point il était handicapé. Quand il allait chez lui à Springwood, on devait le porter jusqu'à la maison. Il fallait 2 hommes costauds pour le mettre dans son fauteuil roulant et le porter à l'intérieur. Il avait besoin d'aide pour s'habiller, il avait besoin d'aide pour se mettre au lit, il avait besoin d'aide pour se lever le matin. Le fait qu'il ne soit pas perçu comme un handicapé prouve à quel point il était doué pour faire semblant.
I think, given the modern world where there are thousands,
dans le monde actuel, où des milliers de caméras scrutent les hommes d'État à chaque instant de leur vie, dans l'espoir de découvrir quelque chose que personne d'autre ne sait, quelqu'un d'aussi lourdement handicapé que Franklin Roosevelt n'aurait jamais été élu président des États-Unis ni d'aucun autre pays. Je trouve ça très triste, parce que son travail ne s'en est absolument jamais ressenti, en tout cas pas avant la fin, quand il était malade.
Cher Monsieur le Président, pour la première fois de ma vie, j'écris à un représentant officiel. Pour la première fois de ma vie, j'ai le sentiment d'avoir un président. Je lis ce que vous écrivez, j'écoute ce que vous dites, je crois en vous, je parle pour vous. Vous nous avez demandé ce soir de faire le point sur nos vies. Oui, ça va mieux. Mon frère, qui a été sans travail pendant 3 ans, a trouvé un boulot en janvier dernier et je n'ai plus à le prendre en charge. Je ne gagne pas plus d'argent, mais je me sens plus en sécurité. Et c'est surtout parce que j'ai le sentiment d'avoir un président. Pour la première fois, je sens que le leader de mon pays s'intéresse à moi et que tous ceux qui ont jalonné ma vie ne sont pas des gens sans importance pour vous. J'espère que vous passez de bonnes vacances et que vous saurez garder la confiance de ceux qui croient en vous. Vous saurez. Je sais que votre programme est sincère et nous, les Américains, le sentons. C'est si rare. C'est ce que nous voulons, pas la perfection. Pas des miracles, mais un pacte honnête. Sincèrement, Alice Timonet, 42e rue, New York City.
Étrange relation qu'aucun dictateur ou petit père du peuple ne saurait susciter ou imposer. Hitler est acculé dans son bunker. Goebbels, encore à ses côtés, crie victoire. Mon Führer, je vous félicite. Roosevelt est mort. Il était écrit que la seconde moitié d'avril serait un grand tournant pour nous. Nous sommes le 13 avril. C'est le grand tournant.
À Washington, précédé d'unités de toutes les armes, celui qui fut, fait unique dans l'histoire, quatre fois consécutif président de la Grande République, a accompli son dernier voyage. Le deuil d'un peuple, plus que les honneurs impériaux du cortège, disent assez combien fut grande l'action de cet homme qui, à force d'énergie, triompha de la maladie, des luttes politiques, de l'égoïsme des puissances établies et de la passivité des hommes devant un malheur qui ne les atteignait pas directement. C'est dans le jardin familial de Hyde Park, qui vit les jeux de son enfance, que reposera désormais le grand démocrate.
Ce jour-là, dans le pays, cinémas et théâtres sont fermés. Les journaux sont parus plus tôt et sans publicité. Les épiceries ferment à 2h de l'après-midi. À 4h, sur le fuseau de la côte Est, commence le service funèbre à la Maison Blanche. Alors, les agences de presse ne publient plus qu'un mot. Silence. Le téléphone ne marche pas. Il n'y a même plus de tonalité. La radio s'est tue. Les métros sont à l'arrêt. Les tramways sont à l'arrêt. Les bus aussi. Les métros de New York ont stoppé là où ils sont.
Cher Monsieur le Président, je suis persuadé que nous avons des vies virtuellement parallèles, à tel point que je me sens obligé de vous écrire pour vous parler de nos similitudes. Nous sommes tous deux victimes de paralysie infantile. Je suis tombé malade en 1924 et suis depuis reclus dans une chaise roulante. Mes bras et mes jambes sont complètement paralysés. En fait, Monsieur le Président, je tape cette lettre grâce à un bâton que je serre entre mes dents et qui frappe sur les touches de la machine comme le pivert contre la souche morte pour trouver des termites. Il semble aussi que vous aimez les mêmes cigarettes que moi. Oui, Monsieur le Président, les Camels sont les meilleurs sur le marché. Nous sommes tous deux démocrates et avons eu des responsabilités dans le parti, vous comme président des États-Unis et moi comme membre du comité de la 76e circonscription. Ce qui nous amène à la seule chose qui nous différencie, notre quotient intellectuel. C'est pourquoi vous êtes le président et moi membre du comité de la 76e circonscription. Respectueusement vôtre, Ralph Burt, Washington.
Le lendemain matin, le train repart pour Hyde Park, le domaine familial à 3h au nord de New York City. C'est là qu'il sera enterré, là qu'il pensait revenir le 1er mai après l'inauguration des Nations Unies, là qu'il est né le 30 janvier 1882. Baltimore, Philadelphie, toujours des foules compactes qui se souviennent de ce train en campagne, du président qui apparaissait sur la plateforme arrière. Puis New York, sa ville, où planent tant de ses discours. Celui-là, au mois de juin 1938.
If the fires of freedom and civil liberties burn low in other lands, they must be made brighter in our own.
Si la liberté et les droits sont en cendres dans tant d'autres pays, ils doivent ici briller plus que jamais.
Yes, there may be times.
Il se peut que surviennent des temps où hommes et femmes dans la tourmente tournent le dos à des siècles d'éducation. Mais les grands effets de l'éducation ne sont jamais totalement perdus. Les livres peuvent être brûlés et les villes saccagées. La vérité, comme l'aspiration à la liberté, vivent encore dans le cœur des hommes et des femmes humbles.
The ultimate victory of tomorrow
is with democracy and through democracy with education. For no,
la victoire finale de demain, c'est la démocratie. Et par la démocratie et l'éducation, aucun peuple dans le monde ne peut être éternellement maintenu ignorant et asservi.
He somehow knew that the country was collapsing. Really, the
il savait que le pays était en train de s'effondrer. Le monde entier sombrait dans le chaos. C'est ce qui a produit Hitler. Les gens étaient désespérés. Et je trouve assez stupéfiant de penser qu'il estimait pouvoir y faire quelque chose. Je crois qu'il y a eu des moments, même si très peu d'entre eux ont été documentés, où il s'est senti dépassé. Il aurait peut-être dit à l'un de ses fils qu'il n'était pas sûr d'être à la hauteur de la tâche. Si ça se trouve, il n'a jamais dit ça. Je crois qu'il s'estimait toujours à la hauteur de la tâche. C'est pour ça qu'il s'est présenté quatre fois aux élections. Une fois élu président, il est devenu l'incarnation de la présidence à ses propres yeux.
Even though he was ill.
En 1944, il était déjà malade. Pourtant, il se fichait de savoir qui serait le vice-président. Après son dernier mandat, il caressait le vague projet de se présenter à la tête des Nations Unies. Comme vous voyez, il n'a jamais cessé de se considérer comme un dirigeant.
Puis défilent les gares. Mahopac, Cold Spring, Poughkeepsie, Harlington, Pleasant Valley, un chemin bien connu le long de l'Hudson River. Aujourd'hui, ce ne sont que des petites villes en déclin, où la gare a des allures de palais et témoigne que c'est le chemin de fer qui a bâti les États-Unis. On ne voit plus passer le train depuis le sommet des collines de Hyde Park. Franklin Roosevelt avait fait planter tant d'arbres sur ces terres déboisées qu'un siècle plus tard, le fond de la vallée est invisible depuis chez lui.
It always impressed me that my grandfather really thought of himself as a farmer.
Mais j'ai toujours eu l'impression que mon grand-père se considérait avant tout comme un fermier.
Perhaps secondly as an architect.
Et peut-être ensuite comme un architecte.
But his goal post-presidency.
Son objectif après la fin de son mandat présidentiel, c'était de cultiver des arbres en Géorgie.
And you know, still have the home in Hyde Park, but he built himself. Did you see it when you were there?
Il avait gardé sa maison à Hyde Park, mais il s'était aussi construit. Vous l'avez vu quand vous êtes allé là-bas. Top Cottage. Vous avez vu Top Cottage?
He played architect.
C'est une petite maison qu'il a conçue lui-même. C'est lui qui a dessiné tous les plans. Il a joué à l'architecte. C'était une des premières maisons conçues dans un souci d'accessibilité. Dans cette maison, il pouvait tout faire seul, depuis sa chaise roulante. Personne n'y avait jamais pensé avant lui. Je trouve ça formidable de me dire qu'il est le premier à avoir réfléchi à un aménagement accessible permettant à tout un chacun d'être autonome.
So his idea post-presidency was to spend the winter months in Georgia growing a disease.
Après son mandat présidentiel, il avait prévu de passer les mois d'hiver en Géorgie à cultiver des arbres résistants aux maladies, et les mois chauds d'été à New York à recevoir ses amis et à cuisiner pour eux chez lui.
Where he could do his own cooking. And it had a great big big porch overlooking the Hudson.
La maison avait un immense porche qui donnait sur l'Hudson.
During his presidency, FDR often returned home here to Hyde Park. We know there are probably at least 135 trips back.
Pendant les années de guerre, son train passait par la ligne de fret de l'autre côté du fleuve.
When FDR took the train during the war years, they would put his rail car on the freight line on the other side of the river. They feared he'd be too easy a target
Il aurait fait une cible trop facile et trop prévisible s'il avait utilisé la ligne commerciale de ce côté-ci du fleuve. Franklin Roosevelt descendait du Ferdinand Magellan, son wagon spécial, à Poughkeepsie, où une escorte motorisée l'attendait pour lui faire traverser le fleuve et l'emmener à la maison principale.
De là-haut, Michael Houghton Rees, ranger en chef de cette propriété devenue monument national, écoute encore passer les trains. Leur sifflement, leur roulement par-delà les arbres, semble relier le passé au présent et dire « Le président est mort, le président arrive ».
Roosevelt avait une règle absolue. Quand il était dans le train, le conducteur ne devait jamais dépasser les 55 km/h. Son wagon était équipé de stabilisateurs latéraux qui l'empêchaient de tanguer. Roosevelt avait perdu toute la musculature de ses jambes et de ses fesses. Si le train penchait à l'improviste, il tombait sur le côté. Alors, il disait au conducteur, « Si vous êtes en retard, dites au machiniste qu'une fois que je dormirai dans mon lit, vous pourrez aller aussi vite que vous voulez. » Mais quand Roosevelt était éveillé et assis dans son siège, la vitesse maximum était de 55 km/h.
Everybody knew he was a poor man's friend. Well, in the year 1945, the one then president laid down and died. We know how all the poor people felt when they received the message that the Lord told them. In his life, that was all indication. Warm Springs, Georgia, he sees salvation. Listen!
C'était le premier épisode de la grande traversée Franklin Roosevelt, l'Allié, avec Judith Carpenter, Ivan Nabokov, Geoffrey Ward, William Harris, David Woolner, Francesca Maxali Urbin, Anne Roosevelt, Michael Kazin, Rebecca Herbelding, Michael Houghton Rees, Kirsten Carter, Catherine Bronwell, et les voix de Clara Chabalier, Lise Combe, Laurent Lederer, Joachim Salinger, Evelyne Guimara, François Loriquet, Géraldine Comon, Fatoumata Koulibaly, Madeleine Bonio-Carlin, Kim Gillon, Fan Montet, Emmanuel Hiron, Mavin Ouattara, Patrick Gauthier. Prise de son, Benjamin Thuot, Valentin Azan-Zielensky. Traduction Céleste Carlin, Marine Elgon. Recherche Ina Sabine Dahuron. Mixage Éric Boisset. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaël Gillon. All the poor folk began to tremble. The rich would ride in their automobile. The pressure made the poor folk rob and steal. They looked next door for our particular neighbor. They wasn't getting anything for our labor. Great God Almighty, that the moonshine stealing. Brought about a crime, labor, robbing and the killing. After all, the president made a long road. The man stepped in and he gave us all. That's why I wrote it down. Oh, that's why I wrote it down. The president tell me why. Then everybody knew he was a poor man's friend. Well, so long the two presidents we ever felt. Abraham Lincoln in the Roosevelt. Way back on in the olden days, may Abraham Lincoln he freed the slaves. Wrote the Bell Administration, the Congress assembled. The first time he kissed upon the Negro General. Benjamin Davis, I'm trying to relate. The first Negro General of the United States. It was racial prejudice was tried to rule out by the Negro leaders into the White House. I advocate a practice of labor. Let the poor man know he is out of matter faith. I make Madam Methuselah, the first lady of the land, to call the old book of Mr. Pretty Man.